Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote.
France Musique.
France Musique, le casque et l'enclume, Lionel Esparza.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast critique sur France Musique, le casque et l'enclume. Aujourd'hui au centre de nos débats, Boris Godounov de Modeste Moussorski, présenté à Paris au Théâtre des Champs-Élysées du 28 février au 7 mars, après le Capitole de Toulouse où la production a été créée en novembre, dans une mise en scène d'Olivier Py. Pour en parler ce soir, Richard Marté d'Opéra Magazine, Benoît Fauché de Diapason et Christian Merlin du Figaro et de France Musique. Et on va entrer dans ce Boris par une porte dérobée, enfin manquée si j'ose dire, celle de Matthias Görn.
Ein Licht tanzt heute vor mir hin. Ich folge nach die Kreuz und Quer. Ich folge im Dämmern, zieh sie an. Das Herz verlocht im Wahn. Ach, für mich so elend ist, rief er sich in der bunten Mist, die hinter Nacht und Graus im Weiß ein helles, warmes Haus. Und
un extrait du Voyage d'hiver de Franz Schubert, chanté ici par Matthias Görne avec au piano Christophe Eschenbach. Matthias Görne qui devait chanter ce Boris toulousain et parisien, il en était même l'attraction principale. Et puis il a été dit à Toulouse d'abord, à Paris ensuite, qu'il ne le ferait pas. On parlera du remplacement un peu plus tard. Richard Marté, est-ce qu'on a vu une explication sur l'annulation de Matthias Görne?
Convenance personnelle, vous savez, ça arrive à tous les chanteurs. C'est une prise de rôle écrasante. Oui. À ce stade de sa carrière, il savait que les destinées du spectacle reposaient pour beaucoup sur ses épaules, comme tout Boris, surtout Boris quand il est donné dans sa version originale de 1869, où ça repose encore plus sur la personnalité du tsar que dans la version de 1872. Donc je pense qu'il ne se sentait pas, tout simplement, pour des raisons qui lui appartiennent, de faire ça. Et il a eu l'honnêteté de prévenir en amont, et donc on a pu le remplacer.
Le remplacer par Alexander Roslavets, on reviendra sur lui un peu plus tard, mais je voulais, puisqu'on est avec vous, Richard, qu'on commence par une impression générale de ce Boris.
Une soirée correcte. Voilà, j'ai pas passé une mauvaise soirée, je n'ai jamais été transporté. C'est globalement bien, voire très bien chanté. Pour moi, Olivier Py a fait une mise en scène qui, j'en ai tellement vu, d'Olivier Py, oui, qui pour moi n'est pas dans les meilleurs. C'est pas mauvais, mais je me suis un tantinet ennuyé quand même. Alors on en revient toujours au même dans le cas de metteur en scène. C'est le cas de Robert Carsen, c'est le cas d'Olivier Py. Quand on a vu 30 ou 35 mises en scène d'un même metteur en scène.
À forte personnalité en plus.
À forte personnalité et surtout qui est contraint de réutiliser les mêmes procédés d'une production à l'autre. Parce que là, franchement, donc c'est très sombre, comme toujours avec les décors de Pierre-André Weitz, il y a la lumière de l'or qu'on avait dans la Huguenot à Bruxelles, qu'on avait dans l'Aïda à l'Opéra de Paris. Il y a un décor de parois, de palais, pas de palais, mais d'immeubles abîmés, fracturés, qui est exactement celui de la Dame de Pique que j'avais vu à Nice et à Toulon. Donc voilà, on a l'impression d'un réajustement de différentes choses pour faire un spectacle extrêmement professionnel. professionnel, contrairement à Olivier Py, mais qui, moi, ne m'a jamais arraché de mon siège.
C'est un peu étonnant, parce que Christian Merlin, Olivier Py, le sacré, le religieux, le politique, les sujets de Boris, c'est les siens aussi.
Ça devrait lui aller, parce qu'il est tellement à l'aise dans le grand opéra, par exemple, historique, dès qu'il est question d'enjeux de pouvoir liés au sacré. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a été intimidé par l'œuvre? Est-ce qu'il n'a pas eu assez le temps de creuser sa réflexion? Parce qu'il en fait beaucoup, il faut bien dire. Tout ce que je peux dire, c'est que je serais même un peu plus sévère que Richard, parce que j'étais allé voir le spectacle au Capitole de Toulouse. Je n'avais pas été emballé, mais par conscience professionnelle,
vous et parce retourné
que je voulais avoir vu la même chose que mes deux confrères. Et donc j'y suis retourné en me disant aussi qu'un spectacle peut évoluer, et que moi aussi je peux évoluer. Mais non. En fait, alors Richard disait, parce que je m'interrogeais sur les synonymes, Richard disait, je me suis un tantinet ennuyé. À la radio de service public, on a le droit de dire qu'on s'est emmerdé, c'est vulgaire.
Écoutez, vous pouvez y aller, chez nous vous pouvez en tout cas.
C'est
dans
du
le
registre familier,
c'est du podcast,
on va dire, voilà, c'est ça. Donc oui, je me suis quand même un peu emmerdé. Ça ne devrait pas arriver avec Boris, qui est si captivant, mais qui est en même temps une œuvre un peu austère, et qu'il faut vraiment habiter. Et là, l'impression, c'est que les ficelles étaient trop grosses. C'est surtout ça qui m'a frappé. Alors oui, lisibilité, bien sûr. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas Boris, à mon avis, comprend tout. Mais c'était très appuyé comme effet et comme intention. Et à un moment donné, je m'en suis désintéressé.
Benoît Fauché, rattrapez-vous quelque chose ?
Non, mais je rejoins globalement les propos assez mitigés des collègues. Je pense que c'est quand même un ouvrage, vous le disiez Lionel, avec ses références religieuses orthodoxes très fortes qui lui parlent. Hein. D'ailleurs, il y a cette présence permanente hein, de la tombe là du petit Dimitri hein, qu'on voit sous une motte de terre avec la croix orthodoxe à l'avant-scène. Donc elle est présente. Alors il y a une tendance chez Olivier Py, en tout cas dans ce spectacle, je trouve, à surligner. C'est-à-dire que le livret nous raconte quelque chose et Olivier Py se croit obligé de nous montrer ce qu'est en train de dire le personnage, en fait, quasiment. À un moment, il y a une espèce de grande complainte où le peuple aussi est là derrière le personnage et on voit, en fait, ce que raconte, en fait, le chanteur est complètement mimé par les personnages derrière lui. Donc, il y a un côté, en fait, redondant que je trouve assez gênant.
Et redondant, ce qu'on retrouve aussi dans la volonté très tentante et évidente, mais peut-être trop évidente, d'évoquer différents moments de l'histoire, de l'histoire de la Russie, et évidemment l'histoire contemporaine.
Récente, poutinienne, vous voulez dire.
Alors justement, parlons-en, quand sur une toile peinte, à un moment, on a Poutine qui regarde Staline, c'est trop. C'est trop évident. Moi, ça m'a fait l'effet un peu d'un Boris pour les nuls, en fait. Et c'est frustrant, disons. Parce que surtout, Olivier Py est capable d'aller tellement plus loin.
Je vais me faire l'avocat du diable, quand même. Quand on fait du trop moderne comme ça et qu'on relit complètement en rajoutant une histoire sur l'opéra, vous n'êtes pas content en disant «
Ah si,
c'est
moi,
pas
si.
L'œuvre ». Et puis quand c'est littéral, vous n'êtes pas content en disant «
Ah
c'est
non,
trop
c'est
l'œuvre ».
Ah non, c'est pas content, mais d'Olivier Py, on attend autre chose.
Alors après, il y a quelques idées quand même et quelques images, comme c'est en généré Olivier Py, notamment le Tsarevitch qui apparaît comme en songe sous une lumière stroboscopique. Là, donc on voit bien l'effet, c'est relativement bien fait. Je trouve qu'en plus, on sent qu'il a des éléments de scénographie qui paraissent moins intéressants et moins originaux que ce qu'il a pu avoir par le passé. Est-ce que c'est un problème de moyens ? Alors, par exemple, je vois ce grand rideau là qui figure la forêt de bouleaux. Je trouve que c'est un élément
facile
de décor quand même un peu simple. Est-ce qu'il y a eu un choix d'ailleurs de faire quasiment de l'ordre de l'arte povera sur les deux scènes en question? Est-ce qu'on est peut-être dans une recherche d'un opéra un peu durable qui recycle des éléments
recycle
de décor?
Des éléments
c'est
de
peut-être
décor
le cas. C'est vrai
oui.
que les éléments comme ça très verticaux de Pierre-André Veil avec ses escaliers, on les a vus quasiment dans trois spectacles d'Olivier Py sur quatre. Hein, on commence à bien les connaître. Ce sont des questions qu'on se pose en voyant ça et qui peuvent un peu laisser sur leur faim des spectateurs qui sont assez aguerris et qui connaissent cet ouvrage.
La direction, je ne l'ai pas dit encore, elle est pour Andris Poga. On n'a pas de trace de lui dans Boris, mais dans un autre russe, Rachmaninov, pour les cloches.
Yeah.
Un extrait des cloches de Serge Rachmaninov, c'était l'Orchestre National de Lettonie dirigé par Andris Poga. Christian Merlin, il se trouve que vous avez vu, du coup, puisque vous êtes à Toulouse aussi, l'Orchestre du Capitole de Toulouse, et à Paris au Théâtre des Champs-Élysées pour ce Boris Godounov, c'était l'Orchestre National de France. Est-ce que vous êtes amusé au jeu des comparaisons?
Ah oui, 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 évidemment, au cœur de l'orchestre.
Oui, alors, bien sûr, oui.
C'est très très intéressant parce que figurez-vous que des deux, celui qui sonnait le plus russe, c'était l'Orchestre du Capitole. Mais c'est peut-être qu'une surprise en apparence parce qu'ils sortent quand même de 15 ans avec Tougan Sokiev comme chef. Donc ils ont ces couleurs sombres et brillantes à la fois, ces sonorités très creusées en fait.
Perrutilantes aussi.
Ouais, exactement. Et âpres en même temps. Mmh. L'Orchestre National était plus élégant, plus français, pardon pour les clichés, mais peut-être que ça manquait un peu de cette âpreté, d'autant que la fosse du Théâtre des Champs-Élysées, en tout cas quand on est assis au parterre, ne favorise pas beaucoup l'orchestre, il est un peu étouffé. Mmh. Donc à Paris, j'ai trouvé la direction d'Andris Poga un peu trop en retrait, et donc peinant aussi à habiter cette musique, déjà que la mise en scène était plutôt littérale, alors qu'à Toulouse, je l'avais trouvé plus impliqué.
Benoît, sur l'orchestre.
Je suis pas surpris, donc moi j'ai trouvé globalement ça manquait un peu de couleur, ça manquait de contraste.
Alors, on sent, pareil,
on sent qu'il y a un chef quand même qui sait s'imposer. Il y a même parfois un chef qui peut avoir une certaine poigne. Mais je trouve qu'il y a des passages un peu chambristes qu'il pourrait un peu mieux mettre en lumière qu'il ne l'a fait. Je pense à la scène du couronnement que, pour le coup, Olivier Py réussit assez bien en projetant comme ça sa lumière sur le cadre de scène déjà doré du Théâtre des Champs-Élysées, et ça fonctionne assez bien. Mais on manque de cet éclat un peu dans l'orchestre, en tout cas, j'ai trouvé.
Au moment où vous avez dit que Andris Poga était un chef à poigne, Richard vous a regardé comme si le poisson n'était pas frais.
Alors, moi, je vais enlever les un peu de Christian et de Benoît. J'ai trouvé ça absolument hallucinant, tellement il ne se passait rien.
Alors,
ce n'est pas Christian qui était à côté de moi, ni derrière moi cette fois. C'est Benoît. Il a dû me voir me tortiller, puisque Christian le signalait régulièrement. Le premier tableau, je me disais, non, mais c'est pas possible. Quand est-ce que l'opéra va commencer?
Ça décolle pas,
quand même. Cette espèce de mollasson, déliquescent, sans couleur, sans rythme, sans. Donc, ça m'a énormément énervé. Bon, après, évidemment, la scène de la cathédrale, la musique le force à s'animer un peu plus, mais ça retombe très vite. Et surtout, le pire pour moi, ça a été la mort de Boris, où on attend une tension, une montée, mais rien, il n'y a pas de tension, rien ne monte, jamais la température encore moins que le reste. Et c'est du coup, mais mortel pour moi, il est le responsable, en grande partie, du fait que je me suis ennuyé dans ce spectacle. Et même avec un orchestre aussi bon que l'Orchestre National de France, qu'on en tire aussi peu, je suis quand même sidéré.
C'était Andris Poga dont nous parlions à l'instant, que nous avons habillé pour l'hiver grâce à Richard. Alexander Roslavets, le Boris, donc, je vais dire de remplacement, mais non, parce que c'est lui qui a assuré du coup la totalité de cette production. J'ai cru comprendre plutôt pas trop mal, Benoît.
Mais c'est plutôt pas mal, effectivement. Je trouve qu'il rentre globalement dans le costume du tsar. Mais j'ai trouvé qu'en plus le personnage était intéressant, et peut-être qu'en un sens il rentre dans la vision de Andris Poga. C'est pas du tout un personnage tonitruant, peut-être qu'on peut lui trouver un léger manque d'autorité, mais c'est vraiment un personnage, un tsar qui a des fêlures et qui nous les montre, et il nous les montre quand même plutôt dans un coulé, dans un beau chant de basse noble ou profonde, je sais pas exactement, mais enfin quelque chose quand même qui correspond globalement à l'emploi qu'il doit tenir. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant.
Christian.
Oui, il fait un tsar mélancolique, en fait, hein, plutôt déjà dépressif. En fait, il est déjà mort quand ça commence. J'ai été sensible, je ne connais pas le russe, mais donc j'ai pas les bons critères, mais en tout cas, à sa manière de mettre en valeur le texte, c'est un chant qui part du mot, visiblement, plus que du legato. C'est pas une basse profonde, hein, c'est plutôt une voix claire, un peu mordante, mais ça fonctionne bien dans l'optique psychologique, en tout cas.
C'est vraiment le prototype de la basse chantante baryton basse, pour lequel, pour moi, est écrit Boris beaucoup plus que pour une grande basse profonde. Il y a des barytons qui arrivent à le chanter. Oui, d'ailleurs, Mathias Goerne n'est pas une basse profonde. Donc c'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé, ça m'a tout à fait convaincu. Je l'ai dit au début, j'ai trouvé que globalement, ce spectacle était vraiment bien chanté et bien distribué.
Est-ce que vous retenez peut-être une autre voix, les uns et les autres, que celle d'Alexander Roslavets,
Richard, alors moi, j'ai été impressionné par Roberto Scandiuzzi, parce que ça fait quand même près de 40 ans que je suis sa Pimen, carrière, qui chantait Pimen. Je me souviens de Roberto Scandiuzzi, fringant en jeune basse à Rome, il y a bientôt 40 ans. Eh ben, il a toujours cette voix sonore, prenante, il a les graves, il n'est pas trop fatigué dans l'aigu, le rôle lui convient très bien, sans doute mieux que des rôles surexposant davantage le poids des ans, si j'ose dire, et j'ai été très 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 convaincu par ce qu'il faisait.
Mmh. Christian ? Mikhail Timoshenko. Alors, il n'a pas un très grand rôle, c'est dommage d'ailleurs, mais chaque fois qu'on l'entend, c'est un chanteur exemplaire de musicalité, de beauté de la voix, de présence, donc on lui souhaite la plus grande carrière.
Alors, Christian a parfaitement raison, il n'a pas un grand rôle. C'est pour ça que je regrette une chose, c'est qu'on n'ait pas monté la version de 1872 avec l'acte polonais, où il doit être, parce que peut-être qu'il l'a fait, peut-être pas, un Rangoni absolument exceptionnel, et vous lui mettiez une grande Marina en face. Bon, en dehors de ça, je regrette beaucoup, au passage, qu'on ne fasse plus la version de 1872.
C'est encore... Pardon, Benoît. Je rentre juste un tout petit peu dans ce débat. Moi, je suis très content qu'on ait fait la version de 1869 parce que, voilà, elle est bien resserrée, bien condensée, en deux heures et sans entracte. Franchement, l'opéra, je trouve que ça se donne sans entracte. C'est beaucoup mieux. On vit dans la tension du moment. Je suis comme Christian, par ailleurs, j'ai fondu pour Mikhail Timoshenko. Voilà, c'est un chanteur libre et rayonnant. J'avoue que la performance de Roberto Scandiuzzi, je reconnais la carrière, le vétéran, etc. Mais je l'ai trouvé parfois à la limite de l'intonation un peu fautive sur certaines phrases. Donc je n'ai pas été pleinement convaincu. Mais globalement, c'est effectivement un beau plateau.
Est-ce qu'on met une note ? Ben oui, on doit mettre une note à ce Boris Godounov. Je sens que ça va être un peu compliqué là. Christian,
sur combien déjà ?
Sur 5.
Ah, sur 5 ?
Enfin, une note, un casque. Combien de casques vous mettez ?
Entre 2 et 3, on a le droit. Il n'y a pas de demi-point.
Dites toujours. Moi, 3.
3, oui. 3.
Oui, 3.
Allez, ce sera un petit 3 pour ce Boris.
Il ne faut pas désespérer l'avenue Montaigne.
Un petit 3 pour ce Boris Godounov. Mais tiens, vous parliez de la scène du couronnement. C'est celle qu'on va entendre ici dans une version très ancienne, puisque c'est celle de Karajan. Extrait de Boris Godounov de Modeste Moussorski, version Herbert von Karajan. Un grand merci à Richard Marté, Benoît Fauché, Christian Merlin, mais aussi à Maud Nourry, Olivier Guérin, Manon Houssin et Louise Hilerito. D'autres épisodes du Casque et l'Enclume à retrouver sur le site de France Musique et sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.